des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Paix sur Terre, tout le monde. Bonsoir, ici André Péloquin et j'ai le bonheur d'animer cette diffusion live sur Twitch, comme à tous les mercredis vers 18h30, quand on n'a pas de pépins techniques, et ainsi que sur nos réseaux de balado, dont Cube, Stitcher, Google, Apple et compagnie. Bienvenue à l'expérience qu'est Paix sur Terre. Je ne suis pas seul avec ma chère collègue Christine aujourd'hui. Non. On a deux collègues qui se joignent à nous, Marc-Antoine Turcotte, et c'est le retour de Cassie Sharp. Et si je peux citer le Lion King,
c'est quoi que ça voulait dire? On dirait Freddie Mercury, mais genre la version Berucam. La version Berucam de Freddie Mercury. Na 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 na.
Alors, et directement à Québec, on a aussi notre collègue Raphaël qui est avec nous. Raphaël, ça va?
Allô? Ben oui, écoute, je me remets de mes émotions après ta performance. Là. Très touchant.
Cet enregistrement va persister à travers les époques. On l'a enregistré en décembre 2019. Donc, non seulement fin d'année, mais aussi fin de la décennie qui a été très, très riche en culture. Hey! On est tanné des films Marvel, tellement il y en a maintenant, c'est incroyable. Alors, c'était une année très riche aussi en jeux vidéo et on va en parler tout au long de cet épisode. Comme à chaque semaine à Paix sur Start, on a aussi une question du public pour animer la communauté sur Twitch qui nous regarde et qui nous écoute en ce moment, mais aussi pour les gens qui nous écoutent en podcast, peut-être en groupe, dans une voiture ou en autobus ou en faisant la vaisselle. On vous invite à jaser entre vous de cette question-là. Quels sont vos jeux de l'année? Quels sont vos jeux de la décennie? C'était notre introduction. Et là-dessus, on va commencer dès maintenant avec notre tour de table sur les jeux qui ont marqué l'année et la décennie! On aimerait remercier Tame Impala qui signe cet interlude musical quasi...
T'es même pas là!
Le retour, finalement, en fait, nous voici, tu es là. Et on est ici tous ensemble et on se retrouve.
Yeah.
Mais là, passons aux choses sérieuses. Ton jeu de l'année, c'était quoi?
Ça fait quand même quelques semaines déjà que je pense à mon jeu, non seulement de l'année, mais celui de la décennie. Comment choisir? Parce que il y a mon côté critique de jeux vidéo qui veut penser impact social, impact culturel, avancée technologique, des trucs comme ça. Mais moi, je pense que ce que vous voulez au podcast de Paix sur Start, c'est qu'est-ce que moi j'aime? Fait qu'on est allé surtout avec nos goûts individuels. Mon jeu de l'année n'est pas le jeu de l'année.
Oh!
Ce n'est pas le jeu de l'année, ça peut pas. Parce que c'est pas assez grand public, c'est pas viral à la, mettons, Death Stranding. Je sais que Sekiro a divisé un peu quand il a gagné au Game Awards jeu de l'année, mais tu sais, cette année, on va se le dire, il n'y a pas eu de God of War, il n'y a pas eu de Red Dead Redemption 2. C'est pas une grosse année de jeux vidéo qu'on a eu.
Oh!
Non, c'est pas une grosse année qu'on a eu.
D'accord.
On a eu beaucoup c'est une belle année indie, mais c'est quand même pas une année céleste. Tu sais, c'est pas une année Ori. Tu sais, on est comme correct, tu sais. Fait que dans mon jeu, il a fallu que je choisisse. Ça m'a pris du temps, OK? Puis j'ai vraiment penché vers Untitled Goose Game.
Oh! Mais j'ai été vraiment surprise que tu choisisses pas.
Ouais, j'ai été très, très proche. Puis la seule raison que je l'ai pas choisi, c'est que je sais que je vais continuer à passer énormément d'heures sur le jeu suivant. Planet Zoo. OK, les amis, Frontier qui fait des jeux des fois corrects, des fois amenés. Ils ont fait Planet Coaster, c'est un jeu de tycoon. Planet Zoo, c'est un jeu, tous vos rêves de jeux de tycoon sont réalisés dans cette œuvre. Il y a plusieurs modes de jeu, dont Sandbox, où comme tout est limité. C'est comme un Sims, là, tu sais, c'est un jeu Sims. Tu construis ton propre zoo. Évidemment, il faut que tu réussisses à rentrer dans ton argent. Mais le but, c'est il y a un but de conservation des animaux qui a été une ligne qui est difficile à gérer. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'en 2019, maintenant, bientôt 2020, le concept des zoos n'est pas adoré de tous.
En effet.
Donc, c'est ça. C'est pas comme Planet Coaster, un jeu de montagnes russes. Pas, ça divise pas ben ben le monde. Mais zoo, bon, c'est les animaux. On parle du bien-être des animaux, tout mm-hmm. ça. Donc, ils ont vraiment réussi à approcher cette problématique-là d'une façon magnifique. Où est-ce que la conservation animale est très, très poussée. C'est vraiment ça, le focus du jeu, je dirais.
Mais qu'est-ce que, excuse-moi, parce que je n'ai pas encore joué à ton simulateur. Ouais. Comment on encourage ça? Comment on le met de l'avant?
Ben, dans le fond, c'est dans les programmes, les programmes de faisage de bébés. Fait que, tu sais, c'est ça. Et puis, tu peux lire, il y a comme un genre de Wikipédia qui appelle un Zoopédia de tous les animaux. Tu peux choisir tes animaux en conséquence, mettons, des animaux qui sont plus à risque. Il y a des grosses fiches qui expliquent si l'animal est en voie d'extinction, etc.
Oh,
etc. Donc, ça pousse beaucoup la reproduction et tu gardes pas, t'es très encouragé via une genre de devise qui est dans le jeu, monnaie qui est dans le jeu.
Ouais.
Que tu reçois à chaque fois que tu relâches un animal à la nature.
Ah, d'accord.
T'es supposé relâcher des animaux en nature. Mmh. Parce que de toute façon, ils font trop des bébés de toute façon. Fait qu'il faut que tu les relâches à un moment donné parce que t'as du overcrowding.
Ah, c'est pour ça que ça chie dans Jurassic Park.
Oui, ça va chercher beaucoup ça va vraiment mélanger Jurassic Park et le Planet Coaster, ça fait comme un grand jeu,
okay.
Un genre de blend de ces deux jeux-là. Donc oui, il va y avoir des barrières qui vont éclater, puis que un lion va s'enfuir, puis oui, il va courir après le monde, les singes, tout ça. On parle des centaines d'espèces qui sont dans ce jeu-là, puis on s'entend que aussi c'est embryonnaire. Là. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir. Il est sorti en novembre, je pense.
Mm-hmm.
Donc oh mon Dieu, il est sorti en novembre, puis j'ai 300 heures, genre.
Wow! Mon Dieu, quasi.
Oh my God.
Okay. Tu vas être la championne du monde, maintenant.
C'est ça. Puis, tu sais, il y a plein de singes, puis il y a des zèbres, des éléphants.
Est-ce qu'il y a des animaux aquatiques?
Ça, c'est la grande question. Il y a des animaux qui ont des activités aquatiques, mais il n'y a pas encore des animaux aquatiques comme des pingouins. Ils ont expliqué, Frontier, que c'était une problématique côté du engine, puis qu'il faut qu'ils retravaillent certaines... comment qu'on pourrait dire, action des animaux pour que ça puisse être possible. Donc, oui, ça s'en vient dans un DLC potentiel. Ils ont déjà sorti un DLC payant, DLC de 10$ qui est un inspiré de l'Arctique, mais on va dire pas trop. Là, tu sais, il y a un ours polaire, puis comme des moutons. Mais tu sais, c'est quand même, ça l'ajoute 500 items, 500 ou 200. En tout cas, une centaine d'items de décoration de plus.
Mon
parce
Dieu.
Que, en plus de créer ton zoo avec les enclos et tout ça, ben, c'est comme les Sims. Faut que tu bâtisses les petites maisons, puis faut que tu fasses, à chaque fois qu'il y a une shop, que tu mets, mettons, un stand à hot dog, mais tu vas tout le designer, puis il y a des gens qui font des créations vraiment magnifiques. Moi, je suis dans mon trip de faire des petits chalets, genre un petit look rustique, cottage dans la neige. Donc, vraiment, Planet Zoo, c'est un jeu qui est sans problème.
Est-ce que c'est ça qui t'allume, le fait que tu peux tout faire, tout personnaliser?
Tout
c'est vraiment fait. Comme selon ton inspiration à toi, tu sais.
Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé de Planet Coaster, parce que Planet Coaster, c'est beaucoup plus froid comme expérience, parce que c'est mécanique. T'sais, tu fais des montagnes russes, puis je tripais comme une folle. Là, tu introduis des animaux là-dedans, puis là, j'ai comme des petits bébés pandas. Quand j'ai un petit bébé panda qui apparaît, là, je suis comme, oh my God!
T'as réussi un miracle que l'humanité réussit pas. J'adore le fait, en fait, que tu disais, puis je le regardais tantôt quand t'étais live, que tu pouvais un peu apprendre sur les espèces qui étaient en danger aussi.
Totalement.
Il y a vraiment un bel aspect éducatif au jeu.
Ouais, puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à, mettons, se protéger de beaucoup de critiques qu'il aurait pu avoir parce que un jeu de zoo, ben, c'est pas.
Ça reste un zoo, là.
C'est pas full PC, mais ils ont réussi à le faire très PC, très politically correct. Excellent jeu.
Donc, pas de bassin de dauphin.
Non, c'est ça. Vraiment pas. Non. Non, vraiment. Non.
Pas à Canada Wonderland.
Non, c'est ça.
Mais qui sait, peut-être que l'année prochaine, on va avoir un DLC justement avec des animaux aquatiques. On pourrait dire Planet Zoo, maintenant avec plus de raies.
Oh my God.
Jeu de la décennie quasi.
Je suis allée vraiment avec le premier qui m'est venu en tête.
Oh!
Le premier qui m'est venu en tête, quel jeu que j'ai joué genre 17 fois de A à Z au complet que j'ai acheté sur chaque console, c'est GTA V.
Ah!
Grand Theft Auto V, imbattable. Mais tu sais, je me rends compte qu'il y a des jeux qui ont eu des dialogues plus pertinents. Non, pas des dialogues plus pertinents, parce que c'est quand même une syllabante. Mais tu sais, des histoires peut-être plus touchantes, comme un Last of Us, qui est comme plus touchant dans mon cœur.
Ton cœur.
Mais c'est pas le même genre de, c'est pas le même genre d'arc narratif, tu sais. Il y en a un qui fait une critique sociale, puis l'autre, c'est comme un drame.
C'est ça. Puis moi, étant fan, mettons, la fan de Fight Club en moi, de Chuck Palahniuk, de son œuvre littéraire, moi, je trouve que si tu mets Chuck Palahniuk faisait un jeu vidéo, c'est GTA. Tu sais, comme, c'est très satirique, puis ça, tu sais, je trouve ça triste que Rockstar n'ait pas le courage d'en faire un nouveau en ce moment, dans le climat actuel, parce que c'est ça qu'ils ont déclaré, là, carrément.
C'est justement pour ça qu'ils le font pas.
C'est pour ça qu'ils le font pas, cause qu'on peut plus rien dire, entre guillemets, parce que GTA, c'est très crasse, mais c'est crasse avec un objectif très, très clair de commenter la société, de faire une satire de la société, un pastiche de tout ça, c'est tellement exagéré, mais c'est bon, c'est bien fait, c'est beau, les dialogues sont extraordinaires. On va vous rappeler, GTA V, il y a trois personnages qui sont jouables, mais t'as pas le choix de faire les trois, de faire la rotation entre les trois de temps en temps. GTA V, c'est ça. Moi, c'est Trevor qui m'a beaucoup touchée parce que c'est comme le psychopathe complètement débile.
Le white trash king.
Ouais, puis il est canadien en plus parce qu'ils ont voulu justifier le fait qu'il y avait un petit accent, on l'entendait des fois, puis on dit, oh, il est canadien. Ses commentaires sur la société, puis sur la consommation, puis c'est très, très pertinent. Tu sais, des fois, quand tu conduis en GTA, soit que t'es concentré sur la route ou t'écoutes le speech que le personnage est en train d'avoir avec son passager. Puis quand t'écoutes Trevor parler dans la voiture, c'est toujours très, très pertinent. C'est toujours très deep, même s'il est complètement dingo. On se rappelle la scène dans l'appartement.
Spoiler alert!
Hashtag
caca. 6 ans que c'est sorti.
Je blaguais, là.
Fait que GTA V, pour moi aussi, c'est le jeu de la décennie à cause que il est encore pertinent aujourd'hui. C'est un jeu qui est sorti en quoi, 2013?
Ouais, je pense que oui.
2013, c'est une grosse année, jeu vidéo. Là, Last of Us, c'est une grosse année. Encore super pertinent, qui continue à vivre à travers le RP, mais aussi à travers le mode en ligne Free for All, de toute façon, qui est rejouable de A à Z sans être vieux. C'est le plus beau jeu, selon moi, de l'histoire du jeu vidéo. Ça a passé proche en Breath of the Wild aussi. Pokémon Go, passé très, très proche pour l'impact culturel, mais j'y suis allée avec mon gros coup de cœur du GTA V. J'ai tellement joué, là. Puis j'ai tellement eu de lap dance dans la vie, là, dans ce jeu-là. Parce que les lap dance sont vraiment bien faits dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux?
Wow! OK, je m'attendais vraiment pas à ce punch-là. Bravo.
J'adore ça.
Très hot.
Raphaël, as-tu des choses à ajouter sur le simulateur de zoo et où les lap dance?
Ben écoute, les lap dance, je vais garder ça pour une autre discussion. Puis sinon, pour le reste.
T'es à l'extérieur d'un podcast.
Ouais, non, c'est ça. Ben écoute, moi, Planète Zoo, t'as légèrement piqué ma curiosité. Personnellement.
C'est ça.
Faire des parcs à thème un peu malaisants, mais ça a l'air bien quand même.
Quasi, merci beaucoup pour ces coups de cœur. Et on va passer dès maintenant à notre correspondant de Québec, Raphaël, avec ses choix! Raphaël, a.k.a. recrue de l'année, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, je me sens très important avec le titre de correspondant. Ça fait très officiel.
Ah
puis,
oui.
Puis j'aime ça.
Écoute. Ah, totalement. Écoute, c'est rendu qu'on a un correspondant, on a une lectrice de nouvelles. Il se passe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que ce bulletin de nouvelles-là s'appelle La Niche à les mousses et c'est une présentation de Ta maison passe au feu. Ta maison passe au feu? Ben, c'est un petit peu moins pire que La Niche à les mousses. Ta maison passe au feu. On retourne à Raphaël. Je vais arrêter, OK? Je suis désolé, Christophe. Commençons dès maintenant. Ton jeu coup de cœur ou ton jeu préféré, là, tout dépendant si tu vas avec la tête ou le cœur, de l'année, c'est quoi?
Ben, je vais y aller un peu avec les deux parce que, écoute, je suis vraiment d'accord avec Kasi sur le fait que ça n'a pas nécessairement été une énorme année au niveau des jeux. Beaucoup de titres qui étaient intéressants, mais tu sais, vraiment des gros coups de cœur que tu sais, tu t'arrêtes, tu te dis, ce jeu-là, on va en parler encore dans 10 ans. Je sais pas.
Ah, OK. D'accord.
De mon côté, j'y ai été. Écoute, peut-être que certaines personnes vont grincer des dents un petit peu, mais j'y ai été personnellement pour mon jeu de l'année 2019 pour Pokémon Sword and Shield.
Oh mon Dieu! Je crois que vous allez avoir une discussion, toi et Christine, à ce sujet. Continue, continue. Puis Christine,
ça, faut de la marde, toi. Là.
Christine, vraiment dialoguer. On veut vous entendre.
Non,
vraiment,
mais c'est... vas-y, je veux t'entendre le c'est, pourquoi du comment.
C'est Drago Balboa all over again. Allons-y.
Ouais, ben, je suis conscient que peut-être pour les purs et durs de la série, ça n'a pas nécessairement été le volet parfait, en fait. Mais bon, moi, je dois l'admettre, personnellement, comme un moment de confession très personnel, je n'ai pas tant joué aux jeux de Pokémon dans ma vie jusqu'à maintenant. Taponné avec des Game Boy d'amis, un petit Pokémon Yellow sur le side, comme on dit, mais...
ah, bien dit, bien dit.
Mais j'ai pas tellement joué à Pokémon jusqu'à bon tomber sur Sword et Shield dans mon cas et j'ai trouvé que c'était tellement le volet parfait pour attirer de nouvelles personnes, de nouveaux fans, de nouveaux joueurs dans le giron de Pokémon. C'est un titre qui est accessible. Puis pour des personnes qui n'ont pas passé nécessairement des heures sur les titres précédents, ben on est capable de d'embarquer là-dedans de façon quand même assez assez simple. Puis surtout pour moi, en fait, c'est le premier jeu de la série principale, là, si on peut dire, là, de Pokémon à sortir. Officiellement sur une console de salon. Mmh. Puis on va se le dire, en tout cas à mon avis, je crois que c'était un gros step pour Game Freak. C'est un step qui a été réussi à mon avis.
Ouais.
Tu sais, on peut parler de Pokémon Let's Go, on peut parler de Pokémon Snap et Stadium et compagnie. Mais...
Pokémon Snap puis Stadium, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça.
Boy. Ouais.
C'était bon Stadium par exemple.
Oui. Ah, mais c'était oui. Les deux
Snap
bon.
Aussi.
Snap aussi, ouais. Là.
Ben, Snap, tu le finis en 20 minutes.
Ouais, mais j'ai eu du fun.
Ben ouais, on était comme tellement émerveillés à 8 ans. On était comme, oh my god.
Pikachu!
Ouais, c'est ça. Donnez-nous n'importe quoi à mettre sur notre 64, puis ça va bien se passer.
C'est ça, exactement. Ouais.
Mais bref, c'est ça. Moi, je le trouve réussi pour de vrai. Pokémon Shield, Sword. L'ambiance est là. La zone sauvage, la zone ouverte, la wild area amène une dimension qui est intéressante. Je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, mais je pense qu'on a évité peut-être certains pièges en ne faisant pas un jeu qui est complètement ouvert, puis en choisissant de garder une certaine linéarité. On joue de façon prudente là, je crois, avec ce jeu-là, mais c'est peut-être ce que ça prenait pour faire ce step-là, comme je disais tout à l'heure sur console de salon. Fait que le Pokédex c'est pas complet. Dieu sait qu'il y a des mécontents sur le web. le jeu prend pas énormément de risques, mais tu sais, au final, l'essence est là, c'est charmant, on met des heures sans compter, puis enfin. On peut jouer sur une grosse télé.
Ouais.
Pour cette raison-là, c'est mon jeu de l'année 2019.
Très bien justifié.
Ouais.
Bravo, bravo. Mmh. Christine, t'as aussi joué, t'as été en un voyage pour essayer de te parler avec ses créateurs. Revenons sur cet épisode. Toi, qu'est-ce que tu en tires de ce jeu?
J'ai écouté Raph attentivement. J'étais pendu à ses lèvres.
Oui, je vais
ça. Et pour vrai, il a tout à fait raison sur tous les points. Oui, le jeu est a ses défauts, là. En étant moi une joueuse de Pokémon depuis Bleu et jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est sûr que c'est des faux. Il y a des trucs, le jeu était peut-être un peu trop facile. Faut pas oublier non plus que c'est un jeu qui est dont le public cible ne sont pas les adultes de 30 ans et plus.
Oh.
Mais tu sais, des plus jeunes enfants, surtout ceux qui viennent de Pokémon Go et de Pokémon Let's Go. Donc, tu sais, il faut que ça soit quand même facile comme courbe d'apprentissage. Je fais partie de ceux qui étaient tristes qu'il n'y avait pas tous les Pokémon, là, quand même. Là, ils nous en ont, j'aime pas dire ça, mais ils en ont vomi tellement des Pokémon que pourquoi ils en ont juste mis 400, tu sais.
Ouais.
Ça, c'est une des choses que je trouvais un peu triste. Est-ce
qu'il y en a de toutes les générations?
Moi, j'ai pas joué après le monde.
Ouais, oui, oui. Il y en a à peu près de toutes les générations, là, mais tu sais, oui, c'est sûr. Il y en a qui manquent, puis il y en a
tellement
qui.
Ils
sont cute. Pour vrai, ils sont vraiment cute.
Comme le lapin, là, quoi, c'est Scorbut, son
nom. Scorbunny, ouais, mais Scorbut. Il devient un ninja qui fait du capoeira, genre, après. Oh, okay. C'est vraiment intense.
Moi, ouais, les évolutions des Pokémon partants sont assez particulières.
Ouais, hein. T'sais,
moi, j'ai pris Sobble, le petit triste, de musique emo, puis d'affaires tristes en général. Je me suis dit que j'allais prendre un Pokémon triste, c'était juste logique. Puis l'évolution de Sobble, maudit, il y a un toupette.
Oh oui!
Il y a le kit, il y a l'outfit, l'espèce d'emo cliché les fans de l'emo traditionnel essayent de déconstruire depuis des années. Là.
Puis à la fin, sa dernière évolution, c'est un grand maigre qui fait de l'attitude avec un genre de manteau style néo. Puis il fait juste lancer, genre, on dirait qu'il lance des lasers d'eau par ses bouts de doigts. Là, puis c'est...
Ouais.
Il y a de l'attitude.
C'est l'universitaire du Pokémon, je sais pas trop. Là.
Ouais, c'est ça. C'est
très bizarre.
Mais je m'attendais pas à ça, un toupette.
Mais...
Non plus. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a jamais joué. Je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, c'est ça. Puis je pense que tu l'as remarqué, Raph, c'est qu'ils ont vraiment voulu mettre des personnalités pour les Pokémon. Puis c'est qu'est-ce que justement les créateurs nous ont dit quand on a fait l'entrevue. Fait que, tu sais, ils voulaient vraiment mettre l'emphase là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi, Raph, parce que c'est drôle que j'ai pas choisi Pokémon comme jeu de l'année parce que oui, il y a vraiment beaucoup de défauts que j'ai expérimenté, mais j'ai quand même plus de 50 heures de jeu sur Pokémon. Mm-hmm. J'en ai 50 heures.
C'est pas négligeable.
Ouais, non, j'ai
pas fini, genre, tu sais, j'ai pas encore fini. Je veux faire le Pokédex complet pareil. Je veux quand même monter mes Pokémon au level 100. Je veux quand même faire des compétitions. Je veux essayer de faire des compétitions même avec les gens de Pinceau Star. Donc, tu sais, il y a encore, c'est un gros projet, puis c'est un gros projet de longue haleine aussi. Là, puis je pense que Raph, t'es d'accord avec moi. Là, tu finis le jeu.
Ouais.
Mais après, c'est là que tu commences les rénaux. Là,
ouais, non, c'est ça, exact. Il y a une ambiance dans laquelle on se trempe dans le jeu qui fait qu'on y revient, je pense, au final. Là.
Exact.
Ouais. Raphaël, ton jeu de la décennie. Je suis pas très bon à claquer. Philippe, notre réalisateur, viens à la rescousse.
Oui, merci.
Tabarnouche. Remix!
Pour le jeu de la décennie, tout ça pour dire que j'ai décidé de nous éviter plusieurs courriels de plainte en ne prenant pas Heavy Rain.
Oh.
Oh.
Mais j'ai passé proche.
Mais ton cœur! En tout cas, bref.
J'ai passé proche. Donc oui, mon jeu de la décennie, ce serait Legends of Zelda Breath of the Wild.
Oh!
Donc, j'y étais.
Le jeu que t'arrêtes pas de changer ton épée parce qu'elle casse. Commentaire. Continue!
Ouais.
Excuse-moi, ça j'étais un petit peu agacé en jouant. Mais allons-y avec toi, je veux t'entendre.
Ça dépend de quel moment du jeu, en fait. Il y a certains moments où est-ce que ton épée te casse, puis c'est correct. Puis donc, je vais être d'accord avec toi.
Merci.
Ben oui, c'est ça, Breath of the Wild. À peu près tout le monde l'attendait, même moi qui... là, je suis dans les aveux dégueulasses aujourd'hui, mais j'avais jamais vraiment joué à un Zelda plus que ça. Moi, j'ai eu une enfance PlayStation, donc ça a donné ça.
Raphaël, poursuis, là. Raconte-nous là, pourquoi Breath of the Wild, qui pourrait être aussi une marque de gomme pour la laine, est ton jeu de la décennie.
Ben c'est ça, à peu près tout le monde l'attendait. Je crois que les attentes étaient élevées. Oui, bref. Puis on s'est retrouvé en fin de compte avec un immense monde ouvert, une histoire sympathique, des gros sanctuaires. On s'est retrouvé avec un jeu qui a, à mon avis, relancé un peu la série Skyward Sword, qui était en tout cas une entrée un peu plus particulière, je crois,
ouais,
dans la série des Zelda. C'est pas tout le monde qui aime ça, jouer avec Link en agitant une Wiimote frénétiquement au-dessus de sa tête.
Attends, c'est vraiment arrivé, ça?
Ouais, oui. Like Skyward Sword, ouais. faut que tu bouges.
Tabarnache.
Ouais, c'est ça. Mm. Exactement comme Christine, j'ai le feed vidéo là, un peu en retard. Là,
puis, fait que faut que tu wink ta manette.
Ouais.
Moi, juste de pouvoir fixer un point au loin puis me dire, OK, je peux me rendre là puis je vais sûrement trouver de quoi de fou à cet endroit-là. Ça m'avait tellement comblé. Je trouve que Breath of the Wild, c'est pas rien. On a réinventé une série puis on a osé, je crois. On s'est lancé dans un jeu ouvert qui, peut-être si on le compare à d'autres jeux ouvert, bon, de la dernière décennie, qui est peut-être pas aussi complet que d'autres, pas aussi rempli que d'autres. Des fois, on peut se trouver sur le dessus d'une montagne, puis bon, il y a juste un petit Kourougou qui nous attend, puis that's it.
Très bonne imitation,
je trouve que quand même, bon, c'est ça, on a osé, ça a payé. Dans mon choix de jeu de la décennie, j'ai pris aussi en considération que c'est un jeu qui, à mon avis, a permis de propulser la Switch à ses premiers instants, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est un jeu de lancement sur la Switch.
Puis on en parle encore... C'est encore la référence, si on veut, sur la Switch.
Oui, c'est ça, exactement. Puis, je crois que ça a vraiment permis de propulser la Switch à ses premiers instants, puis lui donner une chance, bon, de marquer les esprits, surtout après le flop de la Wii U. Là, on fait pas les gros flops de la décennie ce soir, mais je pense que la Wii U, il y aurait quand même une place de choix. Donc, bref, c'est ça, c'est un jeu qui est un jeu fort de lancement de la console. Puis peut-être que la Switch aurait connu un destin un peu différent si ça n'avait pas été du succès de Breath of the Wild. Mario Kart 8 là, est sorti une couple de semaines plus tard après, mais quand même, je crois que dans un univers parallèle, on peut se poser la question. C'est ça, surtout quand on regarde les autres jeux de lancement de la Switch. Là, c'est pas avec un 2 Switch ou Just Dance 2017 qu'on aurait... peut-être réussi à vendre la console à tout le monde.
D'ailleurs, One Two Switch est un autre jeu où est-ce qu'il fallait wanker la manette pour traire des vaches. Ouais. Vraiment, Nintendo. Il y a quelqu'un chez Nintendo qui a de l'humour ou un sombre fétiche.
Mais c'est qu'il faut manger un sandwich aussi, c'est un peu...
Ouais, j'avoue. En tout cas, bref, One Two Switch, un petit peu de Corona, un bon party.
Ce mouvement-là, d'ailleurs, petite parenthèse, revient dans Super Mario Party. Donc, comme tu dis, André, il y a vraiment quelque chose.
Ah, il se passe de quoi? Tous les jeux que vous faites wanker, un dossier chaud de Pest sur Star. À venir en 2020. Raphaël, as-tu quelque chose à ajouter?
Breath of the Wild, pour moi, ça a été le jeu qui m'a vraiment tiré dans l'univers de Nintendo. Donc, pour cette raison-là, c'est pour moi le jeu de la décennie. Il y en a eu plusieurs qui étaient excellents, mais autant pour sa qualité que bon tout le contexte là que Breath of the Wild a amené, c'est le jeu à se rappeler en 2010 et 2019.
Bien dit, avec un argumentaire, ma foi, fort édifiant. On va prendre une petite pause musicale et on va entendre maintenant les choix de mon collègue Marc-Antoine Turcotte!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Merci deux frères d'être venus jouer cet accord de guitare et partir sur le champ sans dire un mot.
Hein?
Oui, c'était deux frères. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, deux frères étaient là avec nous pour nous jouer de la guitare et s'en aller sans mot dire.
Gang, il est à jeun.
Pour les gens qui nous regardent sur Twitch, chut, gardez le secret. Marc-Antoine Turcotte, on va être plus sérieux là. Je crois que dans toute cette ribambelle de personnes ici, tu te distingues parce que vraiment...
Je viens crisser la marde.
Exactement, là, vraiment, je suis très content que tu sois... Non, c'est correct, c'est correct. Alors Marc-Antoine, c'est ça, t'as des goûts vraiment qui diffèrent un peu du reste de cette tablée et de Raphaël qui est à l'autre bout de l'autoroute.
Ouais,
et c'est très intéressant.
Je pense surtout pour mon jeu de l'année, là... Certainement, certaines personnes qui risquent de me critiquer un peu, peut-être.
Oh my God. Moi, là, je vais suivre la conversation sur Twitch. Et Marc-Antoine, je t'invite, prends cette allumette, gratte-la et lance-la dans ce bidon d'essence.
Mais je rejoins un peu ce que Kasi disait tantôt, que dans le sens que le jeu qu'on apprécie puis qu'on détermine que c'est peut-être le jeu de l'année pour nous, c'est pas nécessairement le meilleur jeu en termes de production ou en termes de longueur ou peut-être d'originalité, mais c'est le jeu auquel on joue puis on a le plus plaisir. Donc, pour moi, cette année, le choix est assez simple à faire. C'est le nouveau Call of Duty Modern Warfare.
Ouais.
Ben, il était quand même bien coté, tu sais. Je veux dire, je sors pas champ gauche, là. Tu sais, c'est pas un navet non plus, mais certaines personnes vont être surprises parce que ça reste un FPS assez standard. Bon, on pourrait le comparer à une super production hollywoodienne, si on veut. Donc, tu sais, personnellement, j'écoute pas de super production hollywoodienne et je joue rarement des jeux qui sont dans ce genre-là, mais Call of Duty, il y a ce petit aspect-là de nostalgie qui est venu me chercher parce que, bon, c'est un reboot. Donc, c'est comme l'original que je jouais quand j'étais un ado. Je revenais chez mes parents, puis c'était encore ma mère qui achetait mes Doritos, là, dans ce temps-là. Depuis ça, depuis un bout, je mange moins de Doritos, donc ça, c'est pas pire. Mais bon,
c'est ça, c'est venu me chercher un peu ce côté de nostalgie, puis tous les amis avec qui je jouais, tu sais, dans le temps, v'là 10 ans, je pense que c'était 2007, donc même 12 ans, tu sais, on a tous comme, hey, Modern Warfare ressort, là, puis là, on s'est tous dit, on se rejoint en ligne, puis on a recréé la gang du temps, puis il y a du nouveau monde qui sont...
Sérieux, là?
Ouais, ouais.
Ah, c'est bien magnifique.
Ouais, puis là, il y a du nouveau monde qui sont joints tranquillement, puis... Fait que, ouais, puis c'est bizarre parce que ça a comme marqué un peu un switch pour moi, parce que, tu sais, je suis toujours quelqu'un, même si je jouais gros à des shooters en ligne, je jouais souvent comme, je préférais jouer dans ma bulle tout seul.
Mm-hmm. Ouais.
Mais là, à cette heure, tu sais, si je joue seul, je serais capable de jouer de longues séances, pis tout ça, tu sais, ça me prend vraiment cet aspect-là. Fait que, c'est ça. Call of Duty, je pense, c'est un choix qui est peut-être pas populaire, mais bon, j'ai regardé les chiffres tantôt, j'ai reçu les chiffres, bon, depuis la sortie, puis il s'est vendu, bon, pour un peu plus d'1 milliard en revenus à date.
Ah!
En genre un mois, donc, ouais, c'est assez gros.
Ben, puis sinon, il y a eu... Il coûte aussi une fortune.
Ouais, ça coûte super cher à faire, mais il y a eu aussi 57 000 années de jouer en multijoueur jusqu'à maintenant.
Depuis la sortie,
ouais.
Génial.
57 000 années. Donc, c'est ça. Moi, j'ai joué un petit 80 heures à date. C'est pas si pire.
Mais c'est bien, t'as mis ta pierre au monument.
Ouais. Fait que, c'est ça, mon jeu de l'année. Mais on pourrait comparer à un film peut-être de Gerard Butler ou Jason Statham, dans le sens qu'on sait à quoi s'attendre, puis à petite dose.
C'est un Fast and Furious.
Ouais, c'est un Fast and Furious.
On va quand même le voir.
Parce que c'est un jeu qui va quand même continuer à me faire rager. Bon, fait tuer, puis là, finalement, mais tu sais, j'aime ça rager en jouant à ce jeu-là. C'est bizarre à dire, mais je me frustre, mais je suis pas capable de te déploguer, tu sais. Fait que je me dis, bon, c'est un bon signe, puis tu sais, je sais que tantôt je vais revenir à la maison, puis c'est la première affaire que je vais faire, tu sais.
Peut-être une réaction chimique qui se passe dans ton cerveau qui est comme, ah, yes.
Ouais, mais c'est ça que je parlais tantôt, tu sais, je pense que c'est plus l'aspect, c'est ça, nostalgique, tu sais, ça me donne un petit groove, puis c'est quand même facile à jouer aussi, on s'entend. Fait que ça me rappelle des souvenirs. Je pense que c'est surtout pour ça que j'aime beaucoup Call of Duty Modern Warfare.
Ben, c'est très bien. Écoute, la nostalgie aussi, comme telle une drogue forte. C'est telle,
Ben voyons, on parle de drogue ici, là, voyons.
Telle un opium du peuple, mine de rien. En parlant de choses le fun qui se font dans une cale de bateau, dans un épisode de Tintin, Marc-Antoine, maintenant, là, pour ton jeu de la décennie, on opte pour quoi?
Mais là,
on
y va pour quelque chose d'un peu plus artistique, puis
qui
porte peut-être un message un peu plus fort. Puis moi aussi, le choix était difficile parce que, bon, j'optais beaucoup pour GTA V, mais là, j'étais comme, GTA V, c'est vrai que je l'ai acheté sur toutes les consoles, mais là, est-ce que c'est le jeu qui a eu le plus gros impact? Je sais pas, sur moi, tu sais. Puis j'ai essayé, là, de aussi parce que, tu sais, depuis 2010, ben, on a tout vieilli, puis tout ça, mais tu sais, je pense qu'il y a certains jeux qui m'ont permis peut-être de changer ma perception du monde, puis aussi de développer des nouveaux intérêts.
My God!
Oh, ouais. Mais ouais, c'est cool.
Donc, pour moi, le jeu de la décennie, c'est Horizon Zero Dawn.
Ah, oh, bien joué!
Ouais. Oui.
Ah oui, bravo!
C'est
bravo.
Mon jeu de la décennie, donc...
Totalement.
Yes! Donc, ce choix fait peut-être plus l'unanimité. Mais la raison est simple, c'est que, j'ai découvert ce jeu-là un peu pendant que je m'intéressais, à l'intelligence artificielle, mm-hmm. puis les conséquences du développement de l'intelligence artificielle sans vraiment cadre, sans loi ou quoi que ce soit, puis tu sais que c'est comme une guerre, c'est un peu comme la guerre à l'espace, mais là c'est comme qui va réussir à créer le robot le plus malade qui va fonctionner tout seul le plus vite possible, tu sais.
Ouais.
Puis ce jeu-là comme aborde ces questions-là d'un point de vue vraiment comme post-apocalyptique si on veut, mais en même temps la Terre commence à s'en remettre, tu sais, tranquillement, mais là il y a comme une héroïne inattendue qui arrive, puis là elle comprend rien parce que elle est comme je dirais pas elle connaît pas comme l'histoire d'avant parce que tout a été éradiqué. Puis là, elle est comme, il y a des robots sur la Terre, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils viennent de où? Puis là, eux, ils associent ça à, des forces divines, évidemment, parce qu'ils connaissent pas ça. Puis là, il y a des questions éthiques par rapport au développement de l'intelligence artificielle qui sont abordées vraiment bien. Puis là, tu sais, plus que tu te rends compte, tu te rends compte que finalement, ce qui a coûté peut-être la vie sur la Terre ou presque, tu sais, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas eu de cadre législatif. Puis aussi qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un, un entrepreneur ou un ingénieur qui a été trop
avare.
Ouais, qui a été trop avare puis qui voulait tout faire, puis finalement il s'est fait dépasser par la machine puis il était pas capable de reprendre le dessus. Au début, j'étais vraiment pas fan de science-fiction, de quoi que ce soit, mais là au fil du temps, je m'intéresse à ça, puis là je joue à ce jeu-là, puis là j'embarque vraiment dans l'histoire en malade, puis là ça m'a ouvert vraiment une autre culture complètement de trucs qu'avant j'aimais pas. C'est tout ça à cause de ce jeu-là, tu sais.
Ouais.
C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est quand même vrai. Donc, sinon, ce que j'ai aimé aussi, c'est d'un point de vue peut-être du gameplay. Donc, tu sais, il y a plusieurs façons d'approcher ce jeu-là. Puis, ça change vraiment aussi la façon qu'on joue, qu'on progresse dans le monde. Donc, on peut y aller facile ou prendre tous les monstres. Donc, c'est ça. Donc, c'est surtout pour, c'est ça, l'intérêt que ça a créé en moi, puis aussi l'impact que ça a eu peut-être dans ma vision de, du monde, puis aussi d'une certaine question sociale qui est très actuelle encore, même si
oui,
je,
ça totalement.
Fait bon 2 ans et demi que c'est sorti à peu près.
Oui, mais encore là, je veux dire, ça s'est retrouvé sur bon nombre de listes de jeux de l'année lors de sa parution. Il y a des gens qui attendent beaucoup une suite à ça.
On ne sait pas si ça va être ça, par exemple.
Oh.
Parce que Guerrilla a engagé, mais il y a aussi peut-être un nouveau Killzone, je pense. Ou un nouveau Killzone, peut-être.
À suivre, en tout cas. Moi, j'espère qu'on penche davantage vers Horizon Zero Dawn.
Alloy est très badass.
Oui, en effet. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que c'est une héroïne. Puis là, évidemment, on sait, jeux vidéo oblige, il faut que les héroïnes soient sexy. Et vraiment, j'aime que l'équipe a vraiment misé sur la fonctionnalité de ses armures. Ouais. T'as vraiment différentes armures, puis il y en a juste une où est-ce qu'on voit son nombril. Le reste, c'est vraiment des armures très fonctionnelles, très orientées sur le mouvement et aussi se cacher, aussi se protéger.
La fille, bas contre des robots, là, tu sais.
C'est ça.
Son habit doit, l'habit doit fitter le moine. Je me rappelle plus l'expression exacte.
Fitter le moine.
Mais quelque chose de même, là.
Et c'est ça. Et vraiment, le fait que c'est une héroïne, justement, vraiment, est remis en question que par des personnages un peu lourdeaux et qu'on devine sexiste, mais le reste du monde, vraiment, n'en fait pas de cas. C'est vraiment, sans dire que c'était woke, c'est bien écrit.
Ouais,
on va dire que c'est vraiment un jeu très, très bien écrit. Puis aussi, tu sais, tu parlais beaucoup de, c'est ça, l'aspect scientifique de la chose à côté aussi, mais c'est un sacré bon jeu aussi. La jouabilité est vraiment fun.
Ouais,
parce
c'est
que
clean. C'est, j'ai pas rencontré beaucoup de bugs, puis je l'ai peut-être fait 4 fois en tout. Là, puis
oh mon Dieu!
J'ai jamais eu de bugs vraiment incroyables, même. Je me rappelle même pas vraiment d'avoir eu des bugs.
Puis ça, pour les gens qui ont jamais joué, non seulement on doit combattre des robots, évidemment, mais on peut aussi en hacker, en prendre possession. Ouais. Et aussi, la plupart des robots aussi ont des points faibles à exploiter selon différentes armes. Bref,
c'est cool,
la jouabilité est vraiment très cool. Et comme Marc-Antoine le faisait remarquer, il y a vraiment la lecture. Il y a la lecture vraiment quand des trucs que tu peux trouver dans des archives qui explorent ce qui est arrivé des années avant la naissance de Aloy.
Ouais, puis c'est super intéressant.
C'est hyper intéressant. À un moment donné, justement, tu te demandes, t'es-tu sur une autre planète? Tu sais pas ce qui se passe? Puis t'arrives à une espèce de stade, puis tu trouves une archive comme, je pense que c'est le stade de Houston, un truc du genre. T'es comme, oh shit, ça se passe chez nous, là. OK.
D'accord.
Spoiler alert, je suis désolé. Toi, Raphaël, sur la sélection de Marc-Antoine, est-ce qu'il y a des choses à ajouter de ton côté?
Ben écoute, moi j'aimerais ça dire à Marc, faut pas se sentir mal de choisir un jeu comme Call of Duty en tant que jeu de l'année.
Merci.
Tu sais, sincèrement,
ben oui.
Ça reste des crowd pleasers, mais il y a des équipes qui travaillent derrière ça. Puis,
des grosses équipes, ouais.
Tu sais, quand les Call of Duty sont pas bons, on le sait qu'ils sont pas bons, on le sent qu'ils sont pas bons. Fait qu'il faut le souligner quand il y en a un qui est bien fait.
Ben c'est ça, je pense pour ça que j'ai accroché sur celui-là, parce que bon, on s'entend que la tendance était vraiment à la baisse, donc dans les dernières années. Puis Black Ops 4, c'était un peu un reset. Puis là, avec Modern Warfare, ben là, je pense qu'on est reparti pour de bon, vendre des milliards de dollars de Call of Duty, puis c'est ça.
Voilà. Dominer le monde.
Ouais, dominer le monde. Un Call of Duty à la fois.
Après avoir entendu les commentaires fort édifiants de Marc-Antoine Turcotte, on va passer dès maintenant au choix de ma collègue Christine Lémousse, qui va nous surprendre une fois de plus. C'était Skrillex au clavier. Skrillex, merci. Skrillex. Christine Lémousse.
Je call out mon pipe. Ouf!
Christine Lémousse, malheureusement, il n'y a pas de niche à Lémousse cette semaine. Je m'excuse. J'ai oublié de faire les guillemets avec malheureusement. Je suis désolé. On parle ici, c'est notre gala de la fin de l'année. Christine, parle-moi d'abord de ton jeu de 2019.
Ben, tu dis qu'il n'y aura pas de niche à Lémousse, mais c'est un petit peu niche, les jeux que j'ai choisis.
Cool, on s'en était parlé, hein?
Non, mais en fait, pour le jeu de l'année, c'est une découverte que j'ai faite. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai trouvé. Je prends la... Non, c'est pas vrai.
D'accord.
C'est Children of Morta.
Oh!
Donc, un jeu de... un ARPG, action RPG de type roguelite. Donc, c'est un jeu dans lequel on incarne pas un personnage, mais une famille au complet.
Oh!
Quand
c'est la Brady Bunch des jeux vidéo.
Ouais, genre, c'est ça. Puis, c'est vraiment un mélange de RPG, aventure, de roguelike et de hack and slash. Dans le fond, c'est un jeu qui je crois va plaire aux gens qui ont détesté Diablo 3 comme moi, OK.
Et pourquoi t'as détesté, parenthèse, pourquoi t'as détesté Diablo 3?
L'histoire était de la merde.
Tabarnouche, je regrette cette parenthèse.
Voilà, pour les gens qui attendent Diablo 4 avec impatience, je vous conseille fortement d'essayer Children of Morta. Donc, un jeu dans lequel on gagne des niveaux, on débloque des nouveaux pouvoirs, des améliorations. Le personnage ne meurt pas réellement, OK? Pas comme les hardcore dans Diablo où est-ce que tu perds tu perds ton Demon Hunter. Mm-hmm.
T'as l'air très affecté en ce moment.
Je vais
un classique roguelike.
Je vais me replacer.
Christine, veux-tu comprendre?
C'est bon.
Christine, t'es correct?
Oui, je suis correct.
OK, d'accord.
C'est bon. Puis, c'est vraiment un style de jeu que j'ai vraiment adoré, tant la mécanique que graphiquement aussi, parce que, bon, faut le dire, moi, quand du côté graphique vraiment sexy, moi, j'adore ça.
Mais parlons de l'esthétique, c'est particulier pour ce jeu.
C'est une esthétique, exactement, c'est une esthétique, une combinaison entre le pixel art dessiné à la main et des animations images par image.
Oh.
Donc, pour vrai, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu vraiment fait aussi bien là, que ça. La panoplie de personnages que tu peux incarner. C'est vraiment une famille que tu incarnes. Donc, il y a le père, John, qui est un guerrier classique, épée et bouclier.
Est-ce qu'il est en bedaine?
Non.
Maudette.
Non, c'est pas Conan, là. Okay. Mais
pour la question.
Il y a Linda.
Linda.
Les noms sont un peu bizarres.
John puis Linda.
John, Linda. Okay.
Linda, la guerrière.
Ça fait Saint-Eustache un peu.
Mais, la guerrière Amazon.
Linda, c'est la fille. Donc, c'est leur fille. Ils ont appelé Linda.
Linda.
Qui est la fille aînée, qui est une archère.
OK.
Kevin.
Tabarnouche.
Qui est un combattant de type rogue assassin avec des dagues.
Là, la mère s'appelle comment?
Non, la mère, je me rappelle
Chantal.
Pas comment elle s'appelle.
Ouais, Chantal.
On va l'appeler Chantal, OK? Lucy, qui est une petite fille qui est magicienne du feu, qui lance des boules de feu. Elle est vraiment trop cute. Mark, qui est un moine qui pratique les arts martiaux. Il s'appelle Mark.
Tabarnouche.
Et Joey. Qui est un genre de gros barbare très doux, hein, qui écrase ses ennemis à coups de marteau.
Très Friends.
Très Joey, c'est ça, exactement. Fait que, pour vrai, c'est vraiment un jeu que je trouve l'histoire tellement mignonne dans un sens. Tu sais, oui, il faut qu'il combatte une corruption qui a pris le contrôle de la terre, de la nature et tout. Mais c'est tellement comme doux l'histoire autour de la famille que tu rentres vraiment dans l'histoire puis t'es emballé par tout ce qui se passe dans le jeu. C'est un jeu style de map procédural, donc t'as jamais les mêmes maps tout le temps.
Mm-hmm.
Honnêtement, là, le jeu est difficile. Ok, moi je suis pas totalement bonne, là, mais pour l'avoir joué avec quelqu'un qui est très doué à ce genre de jeu là, le jeu est vraiment difficile.
Mais est-ce que c'est un side scroller ou c'est un
c'est un top 2.5D, genre.
Ok.
Comme Diablo, dans le fond, isométrique.
Ouais,
c'est ça.
Pas genre la Dead Cells, mettons.
Non, Dead Cells, c'est bon, par contre.
C'est bon.
Mais pour vrai, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est quand même difficile, qui est vraiment un défi. Mais il est pas difficile frustrant.
OK.
Il est difficile, vraiment, genre, c'est un défi que tu veux relever. Puis que, tu sais ça, tu veux juste passer à l'histoire suivante. Mmh. Puis pour vrai, je l'ai fait en pendant un live de charité au DreamHack. Puis c'était vraiment long passer le premier bout parce que c'était difficile, genre, pour vrai. Mais j'ai réussi, puis on a atteint notre objectif aussi. En même temps.
Bravo.
Voilà, c'est ça. Fait que, jeu de l'année, Children of Morta, un jeu qui est un peu passé sous le radar, mais je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens vont apprécier, surtout si vous attendez Diablo 4.
Mmh.
Parce que Diablo 3, c'est de la... Voilà.
Sur quelle plateforme c'est disponible?
C'est disponible sur PC, mais c'est sorti aussi sur d'autres plateformes par la suite, PS4, Switch.
OK, ouais. Cool.
Passons au choix sûrement le plus déchirant. Ton jeu de la décennie.
Ça a été déchirant, mais en même temps, non. Parce que c'était comme naturel que je choisisse ce jeu-là, puis Caddy va être d'accord avec moi. C'est Stardew Valley.
Mmh.
Honnêtement, là, Stardew Valley, André, je sais que tu comprends pas pourquoi on aime tant ce jeu de simulation agricole et de rôle.
Ben là, écoutez, là, Christine et Kasi, tu vas embarquer, si tu veux sauter dans l'arène, allez-y, mais pourquoi on devrait jouer à Stardew Valley? C'est quoi Stardew Valley? Pourquoi tout le monde capote là-dessus, pour l'amour du ciel?
OK, pense un peu à... On est tous des enfants un peu de la ville, là, sauf toi. Là,
j'ai senti le jugement dans ton pointage.
Tu vis en ville maintenant. Là, donc,
je viens de Sorel. Hein.
Ouais, mais toi, c'est...
Je faisais le train quand j'étais jeune.
Le train?
Le train.
Mais tu sais, moi, je suis un enfant de la ville. J'ai grandi en ville. J'adore la ville.
Mon Dieu, les nerfs coriaces.
Mais...
Je suis un enfant de l'asphalte.
Ah, moi, Tatine, je me suis trompée dans ma référence en plus. Je suis désolée, Christine.
Donc, mais le jeu de Stardew Valley, je pense que c'est un peu un genre de rêve qu'on vit, qu'on voudrait vivre, qu'on voudrait genre se lancer, de tout laisser tomber en ville, de partir en campagne, puis juste avoir sa propre ferme, puis faire ses propres affaires, contact avec la nature et tout. Honnêtement, tu ris André, mais moi je suis une fille, je suis vraiment une fille de la ville, mais puis je m'imaginerais jamais le faire là, de partir en campagne puis de me faire pousser des cocombes, genre, tu sais, non, tu sais. Mais Stardew Valley là, c'est relaxant, c'est un antidépresseur, je crois, qui fait en sorte que t'oublies genre ta journée, t'oublies genre ce qui est arrivé la veille, t'oublies ce qui est arrivé le soir. Tu joues à ça.
C'est très mécanique aussi. Mm-hmm. C'est pas comme... t'as pas besoin de penser en jouant.
Mais c'est après combien d'heures, mettons, pour se rendre à ce niveau-là? Parce que j'ai essayé de jouer, puis je faisais juste sacré, genre, dans les premières heures. Parce que...
Ben, les premières heures, c'est pense c'est à grinding. Ça. Okay? Pense au fait que, genre, tu déménages dans un appartement, puis c'est laid ton appartement. Faut que tu repeintures, faut que tu mettes la déco, faut que tu refasses les X, Y, mm-hmm. tout. Bref. C'est la même chose, hein, tu hérites d'un terrain de ton grand-père.
Les arbres,
tu coupes les arbres,
faut que tu claires tout.
C'est ça. Pour te faire un espace qui va par la suite grandir. Puis à un moment donné, tu vas finir la première année, tu vas avoir un poulailler, une grange avec des vaches, des moutons.
C'est là que le fun commence,
je me dis. Puis là, t'es comme, OK, là, je suis avancé, j'ai un peu d'argent, je suis un fermier. T'as des quêtes aussi à faire parce que, tu sais, t'as un genre de
une
centre.
Histoire, ouais.
C'est ça, il y a une histoire derrière tout ça. Puis honnêtement, là, tu rentres dans ça, tu fais tous les quêtes. Il y a vraiment pas de but vraiment précis au jeu non plus. Oui, il y a un but, mais... Tu peux tellement prendre le temps que tu veux pour le faire.
C'est des objectifs que tu te fixes toi-même. Uh-huh. Tu sais, comme, mettons que tu veux faire tel montant d'argent ou tu veux avoir, je sais pas. T'sais, moi, récemment, j'ai recommencé une partie où est-ce que mon objectif, c'était d'avoir le plus de lapins possible.
Mais c'est un jeu qu'il faut que tu prennes le temps de jouer.
Exactement.
Parce que moi, je l'ai acheté sur différentes plateformes mobiles. Mettons mon sel.
Oui, sur mobile aussi.
Puis j'ai pas pris le temps de jouer encore.
Mais tu vois, c'est pas le genre de plateforme où est-ce que tu peux t'asseoir puis tu te dis, je vais prendre le temps de m'asseoir à jouer 20 heures ou 12 heures sur le jeu.
C'est facile de comme passer à autre chose quand tu gosses, mettons.
Exactement, tu sais. Puis c'est ça qui fait que Stardew Valley, je pense que tu l'apprécies vraiment quand tu dis, OK, aujourd'hui, je vais jouer, je vais m'asseoir, puis je vais commencer une game, puis je vais voir où est-ce que je vais me rendre. Puis tu peux... J'adore jouer solo. Pour vrai, j'ai adoré mes parties solo, mais j'ai découvert, c'est ça, les parties multijoueurs qui sont sorties il y a quelques années, puis là, ils ont refait des mises à jour, puis ils ont vraiment bien réparé le tout, hein, tu sais. Puis honnêtement, quand tu joues multijoueur, c'est tellement aussi relaxant, sinon plus, ça rend c'est vraiment une expérience complètement différente.
Comme la Minecraft, mettons.
C'est même pas, c'est juste un village, dans le fond, genre, où est-ce que t'as ta propre terre, mais le reste du village, c'est la même chose pour tout le monde.
C'est communautaire,
C'est ça, fait que c'est exactement ça. C'est coopératif, c'est communautaire, puis tu sais, c'est en s'aidant qu'on complète des casse-têtes, qu'on ramasse de l'argent, qu'on trouve des objets rares pour remplir le musée, pêcher, cuisiner, faire pousser des cocombes, se marier, avoir des enfants. Bref, tu sais,
On parle-tu encore du jeu, là?
Ouais.
On parle encore du jeu. Puis, tu sais, qu'on le veuille ou pas, André, là. Là, je te parle à toi direct, André. Le jeu a reçu des notes presque parfaites.
Puis le gars, il est tout seul. Il était tout seul,
ouais. C'est ça. Puis dans le fond, c'est juste une compagnie tierce qui l'a aidé à faire le port sur d'autres consoles. Ouais. Mais le gars était seul pour faire le jeu. À la fin de 2017, Stardew Valley aurait été vendu à plus de 3,5 millions de copies.
Oh, ouais.
Merci Philippe, en effet.
Et, genre 20$ à peu près.
Et en 2017, le jeu est sorti sur Switch au mois d'octobre. Et c'était le titre qui a été le plus téléchargé en 2017. Ouais. Il est sorti en octobre, tu sais.
OK, oui, ça laisse pas longtemps.
Donc,
Stardew Valley, c'est vraiment comme les gens qui l'aiment, l'aiment beaucoup.
C'est incroyable.
Je pourrais souligner que Stardew Valley, c'est la suite spirituelle de Harvest Moon. Mm-hmm. C'est Harvest Moon qui avait connu son lot de succès dans le temps.
Ouais.
On parle de quelle année, là, pour les gens qui n'ont pas suivi les jeux de ferme? Là.
Je pourrais pas te dire Harvest Moon, je sais pas c'est quelle année.
Harvest Moon, moi, j'ai pas joué, parle de la GameCube.
Avant ça.
Même 64?
Par Nintendo, si je me trompe
pas. Oui, c'est vieux.
La 64, puis la GameCube en ont eu. Mais tu sais, c'est ça.
C'est le premier, c'était ça, SNES.
C'est vraiment comme une suite très spirituel de Harvest Moon.
C'est ça, c'est carrément genre un hommage à ce jeu-là.
Mais c'est tellement un bel hommage, là.
Ouais, mais aussi, tu sais, il faut premièrement l'essayer pour savoir si on aime ça ou non.
Ouais.
Mais faut l'essayer comme il faut. Il faut laisser, il faut quand même, c'est, je pense, c'est le genre de jeu qu'il faut lui donner un bon 10 heures avant de se faire une opinion.
Wow.
Mais 10 heures, ça passe vite en gaming, là.
Ouais.
Mais aussi, moi, le sentiment que je peux comparer à, mettons, le sentiment que je, qui ressemble le plus, c'est quand je jouais à Ocarina of Time dans le temps, puis que j'arrivais à Long Long Ranch, j'aimais beaucoup l'environnement, là. Puis je voulais comme rester dans cette vibe-là, des fois, parce que c'était tellement de la merde à l'extérieur de Long Long Ranch. Fait que, tu sais, ceux qui ont aimé ce feel-là, vous allez probablement aimer Stardew Valley. C'est un jeu, par contre, de gestion. Fait que ceux qui aiment les tycoons, ceux qui aiment les jeux, les Sims, les trucs comme ça, c'est un jeu de gestion de ressources, gestion de tâches, puis that's it, là. C'est très mécanique. Moi, c'est le genre de jeu que je joue pendant des heures, mais en regardant du Netflix en même temps. Tu sais, moi, j'ai comme ma Switch sur le bedon, puis je regarde genre RuPaul's Drag Race, là, tu sais.
Un bon combo.
Mais c'est ça, tu vois, moi, elle va vivre ça de cette façon-là. Moi, je vais vraiment le vivre.
Faut que tu plonges dedans.
Immersif, vraiment intense, où est-ce que je vais avoir mon casse-écoute, puis que je vais jaser, parce que je vais jouer en multijoueur. Je vais jaser avec les gens avec qui je suis dans ma game. Je suis comme, OK, aujourd'hui, tu peux-tu aller chercher ce poisson-là? Moi, je vais aller chercher des graines chez Pierre. On va planter des parsnips pour faire le plus de parsnips en or pour pouvoir faire la quête. Bref, tu sais, c'est ce genre de truc-là. Pendant ce temps-là, l'autre est dans mine. C'est vraiment tellement un beau jeu de coopération, que tu sois solo ou que tu sois en multijoueur, je pense que c'est probablement un des plus beaux jeux où est-ce que tu peux voir comment la coopération va bien, ouais, avec Minecraft, bien sûr.
Ouais, parce que j'imagine que tu te fais pas envoyer chier par les autres joueurs de Stardew Valley. Là.
Non, parce que t'es tellement zen.
Ouais, c'est pas comme dans le code.
Tu peux juste rejoindre des
gens amis, genre. Okay, ouais,
c'est ça. C'est pas random.
Non, c'est ça. Okay. Mais tu sais, c'est tellement zen comme jeu que tu peux même pas être fâché.
Ouais.
Mon doux Seigneur.
Tu fais juste comme, c'est pas grave. Tu te dis genre, on n'a pas eu assez de cocombes pour cette saison-ci.
T'as noyé mes
cocombes. C'est pas grave.
Raphaël?
Allô?
Oh. Parle-nous de divorce.
Non.
Ça m'est pas arrivé encore.
Écoute, puis, on touche du bois.
À ma blonde qui m'écoute, ça arrivera pas, là.
Bravo. Mais plus sérieusement, as-tu des choses à ajouter, que ce soit sur Stardew Valley ou sur le jeu de l'année de Christine Lemousse?
Ben, Stardew, moi, ça fait un bout que je marche sur la ligne entre est-ce que je dépense 20 piastres là-dessus puis je vais vraiment l'utiliser ou bien est-ce que je l'achète?
Non, il n'y a pas de ligne à marcher. Non, il n'y a pas de ligne à marcher, Raph. Ouais. Tu fais juste genre dépenser.
Mais je pense que c'est un bon jeu à comme tu le statches dans ta librairie, puis à un moment donné, tu joues.
Ouais, c'est ça. Samedi après-midi, t'as envie de te faire frapper par une météorite tout en divorçant. Fait que tu te dis, Stardew Valley, let's go.
Une fin de semaine parfaite.
C'est beau que vous avez genre, vous êtes juste comme stické sur le divorce puis la météorite.
Alors, on s'entend que c'est.
Rajouté!
Mais là, on s'entend que c'est ce qui sort de l'ordinaire du jeu. Là. Alors, sur ce tour de table et par extension aussi à Québec avec notre ami Raphaël, on vous a livré nos jeux de l'année, de la décennie. Et maintenant, place à la communauté PES sur Start! Tel qu'on a annoncé au début de l'épisode, on veut vous lire, on veut vous entendre aussi pour les gens qui nous écoutent sur la version audio. Pensez-y, envoyez-nous des commentaires aussi. Est-ce que on était dans le champ avec nos choix personnels pour 2019 et de la décennie? Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous avez fait des découvertes avec Children of Morta, par exemple? Contactez-nous. En attendant, Christine, quasi, vous avez lorgné vos téléphones et ordinateurs pendant l'enregistrement. Oui. Est-ce qu'il y a des sélections d'habitués de PES sur Start qui vous ont sauté aux yeux?
Skyrim? Moi, Skyrim,
c'est ça.
Oui, c'est vrai. Hein? Skyrim a été mentionné à quelques reprises.
Ben, en fait, je sais que toi, André Scarry.
C'était ton choix.
J'en avais deux, en fait, puis j'avais tranché pour un autre. J'optais finalement pour The Last of Us parce que l'histoire m'a beaucoup plus chamboulé et interpellé. Mais oui, j'avoue que Skyrim, c'est sûrement le jeu auquel j'ai joué le plus. Je veux dire, depuis la PS3, je joue. Je vais lâcher sur toutes les consoles possibles et imaginables. Si je pourrais l'avoir direct dans le cerveau, je le prendrais.
Mais est-ce qu'ils ont pas dilué un peu le produit justement en faisant ça? Ou est-ce qu'ils ont comme aliéné leur base de fans, tu penses?
Ben, tu sais, si on suit les mimes sur Internet, là, avec, tu sais, que peu importe le jeu que Bethesda va sortir, ça va fade out et ça va être la scène de début de Skyrim avec « Oh, tu te réveilles! » Ben, je crois que...
Oh, quel beau mime.
C'est pas une écœurantiste, c'était plus un genre de cynisme, peut-être.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, surtout avec la catastrophe ambulante qui est Fallout 76, comme « Ouais, Skyrim 2, c'est micro-ondes, ça va arriver plus vite qu'on pouvait le croire. » Mais bref, tu sais, c'est un excellent jeu, je veux dire. Je pense que les gens, d'un côté, sont critiques, mais de l'autre, c'est comme une paire de vieilles pantoufles. Là. C'est comme « Ah, c'est confortable, c'est le fun. » Puis c'est comme « Ah, cette fois-ci, je vais me faire un personnage, puis ça va être un magicien. » Puis 2 heures plus tard, comme « Ah, j'ai encore pris un archer, mon tadine! »
Ben, en fait, tu fais toujours la personne. Ouais. Tu fais toujours la même histoire, le même chemin, les mêmes quêtes.
Ben ouais. C'est rassurant.
Ben oui. Mm-hmm.
Puis la trame sonore. D'ailleurs, c'est la trame sonore de Skyrim est la chose que j'ai le plus écoutée sur
Spotify
cette année parce que je l'écoute.
Ouais. C'est bien agressif.
Je l'écoute. Je suis
en train d'écrire un article.
Non, mais tu je vois que les chansons tranquilles, ça m'aide à m'endormir. Puis tu mets le timer sur Spotify. Ouais, genre
Dieu, t'es chaotique. Toi, t'es chaotique. Evil,
c'est clair.
Ah, vous êtes dur là, avec la trame sonore. Là. Quoique la personne qui a fait la musique maintenant est cancelled, alors je me sens un peu mal.
Ah, il est cancelled?
Il est cancelled.
Okay. Comme il y a pas mal de monde dans le gaming, on va le dire.
Ouais. Aussi, en effet. Mais bref, ça, je vais essayer de changer en 2020 et écouter moins la trame sonore de Skyrim pour faire de dos. En parlant de 2020, on va conclure rapidement là-dessus ce segment. Autant les gens qui nous regardent sur Twitch, qui nous écoutent en audio, on vous invite à y penser et là, on va faire un tour de table très rapidement. Là, je veux de l'émotion. Là. Le jeu que vous attendez le plus en 2020, c'est quoi?
12 minutes!
Attends
une seconde. C'est quoi ça? Une exclusivité Xbox. C'est un jeu qui se déroule dans un... Bon, c'est un loop de 12 minutes, évidemment.
OK.
Contre deux personnes?
Non, c'est une histoire. C'est un thriller interactif. Donc, on le qualifie de thriller interactif qui serait en développement depuis 2014.
Mon Dieu.
Puis, c'est développé par un seul gars, donc un peu à la Stardew Valley. Puis finalement le projet va sortir sur Xbox 12 minutes, donc c'est ça, c'est un loop de 12 minutes.
OK.
Puis ça fait qu'on est capable de voir ce qui va se passer, puis là ça se répète tout le temps. Donc c'est drôle, dans un environnement un peu dark, ça se passe dans un appartement de 3 pièces. Donc c'est vraiment petit, mais ça fait que le contenu et ça a l'air qu'il est super liché, puis les interactions aussi sont cool. Donc on verra 12 minutes.
Et toi Kazi, ton jeu attendu en 2020, c'est quoi?
Last of Us 2.
Mais.
Fait que ça c'est pas mal mon numéro 1. Après ça, Animal Crossing.
Mm-hmm. Oh!
Animal Crossing, date, beaucoup parce que j'ai manqué le bateau avec les Animal Crossing précédents parce que j'étais pas très portable dans le temps. J'étais pas console très portable, donc je suis pas embarquée dans ces jeux-là. Mais je sais que étant une fille qui adore Stardew Valley, c'est un jeu pour moi. Aussi, Cyberpunk.
Ah ben oui, évidemment.
Cyberpunk 2077, plus je vois des images. Tu sais, à un moment donné, il sortait trop de nouvelles là, sur Cyberpunk. Il y avait comme trop de stock qui sortait. Là, ça le ralentit un peu.
Ouais, enfin.
Ça laisse plus de temps au jeu de mariner d'une belle façon, qu'on puisse apprécier les images qu'on a depuis longtemps, puis de juste anticiper. J'ai peur que, justement, ça soit juste une omelette avec trop d'ingrédients. Tu sais, comme quand fais juste tout mettre ce que t'as dans ton frigo pour faire une omelette parce que t'as faim. J'ai peur que ça soit trop d'affaires parce qu'ils ont trop overloadé, mais j'ai encore.
Moi, j'aime ça, la violence, dans un sens, là.
Je sais, je suis ton voisin de bureau.
Mais Doom Eternal.
Oh yeah.
Quand même, là. Juste du gros métal, arracher des têtes, couper des gens en deux. Exactement, c'est ça. Moi, j'aime ça.
Il me fait tout.
Puis, c'est ça. Je pense que Doom Eternal est dans les jeux qui me titillent beaucoup. Puis, puis Animal Crossing aussi.
Animal Crossing.
Qui se complète.
Non, mais Animal Crossing, moi, j'avais joué à City Folks, que j'avais quand même beaucoup aimé. Je l'ai redécouvert quand ils ont fait l'annonce d'Animal Crossing. On y a rejoué sur la Wii.
Oui, oui. Animal Crossing, c'est une grosse partie pour Nintendo.
Oui, oui. C'est comme... C'est ça. Il faut que... Non, ça va
c'est
être bon.
C'est un très, très gros titre pour Nintendo. Ouais. On l'a vu aussi juste dans la façon d'approcher le dévoilement d'Animal Crossing. Ils ont fait des teasers sans rien dire. Tu sais, juste l'image d'Isabelle. Ouais, donc, ils savent, Nintendo est très au courant que c'est une énorme franchise mm-hmm. pour eux, que selon moi, le potentiel de faire le plus de ventes chez Nintendo en 2020.
Ouais, ça risque d'être le jeu Nintendo.
Parce qu'il y a Mega Man aussi qui arrive, mais moi, je pense qu'Animal Crossing est encore plus grand public, encore ouais. plus wide.
Ah non, c'est sûr. Megaman, c'est plus niché maintenant, là, tu sais.
Ouais.
Puis, il y a un autre jeu aussi qui arrive que j'ai hâte, puis vous allez peut-être me dire, oh, c'est sûr, t'es une incelle, là, puis tout, là.
Hey, mais,
non, No More Heroes 3.
Ah ouais.
Ah, t'es une incelle.
Mais No More Heroes 3, No More Heroes, moi, j'ai une histoire d'amour avec No More Heroes parce que c'est le premier jeu que j'ai acheté quand j'ai acheté ma Wii, qui était la première console que j'ai achetée avec ma propre argent.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, No More Heroes, c'était tellement vulgaire que j'adore ça. J'ai toujours adoré ce genre de jeu-là.
Raphaël, toi, tes choix,
moi,
man.
Ben, moi, je vais être assez bref. Last of Us Part 2.
Et voilà.
Yeah.
Ça va être triste, ça va être bon. Des feels, un petit peu de violence, comme disait Christine. Ça fait toujours du bien.
Ben oui.
Les secrets d'un bon samedi.
Des bons couteaux dans les mollets, là.
Cyberpunk, je suis d'accord avec les filles. Pour de vrai, c'est sûr que ça va être bon, mais en même temps, ça se peut que ça soit un peu too much.
Ouais.
Moi, je suis pas du même avis.
J'ai peur que ça fasse plus dur. Ils nous ont montré le jeu. La première fois qu'ils ont montré le jeu, c'était comme, oh, wow, ouais. ça va vraiment être bon. Puis à un moment donné, ils ont fait, OK, on slap Keanu Reeves là-dessus. OK, on peut faire ça.
Ouais, mais là, ils ont montré. Ouais, mais le plus récent extrait qu'ils ont montré, c'est avec les différentes façons de jouer avec les factions.
Ouais.
Puis là, tout faisait du sens dans le sens que tu pouvais choisir vraiment ta façon de jouer selon, ah, moi, je vais être chumé avec les hackers, ben, tu vas faire des missions avec les hackers.
Tu vois, j'espère que ça va être ça parce que.
À un moment donné, j'ai l'impression que tout se recroise aussi à quelque part, là.
Ben, probablement, là, comme Mass Effect qui est arrivé, puis Fallout 4, que tu voulais faire de quoi, tu fais changer l'histoire, puis t'es comme, ah, non, tu peux pas le faire. Fait que t'es comme, mais ouais, ben, c'est ça, je pense que, Raph, peut-être que t'es d'accord avec nous. Moi, je trouve, en tout cas, que Cyberpunk est peut-être un peu pizza, mais on a encore un peu espoir.
Ouais, ben en fait, c'est juste que les attentes sont tellement gonflées, on en entend parler depuis tellement longtemps que tu sais Witcher 3, je sais pas à quel point on l'attendait tant que ça, à quel point on avait des attentes si grandes. Là, Cyberpunk ça fera pas ça, mais ça me rappelle quasiment les attentes qu'on avait pour No Man's Sky à l'époque.
Ah bon,
ça me fait un peu peur.
C'est vrai, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup, beaucoup de pression. On dirait que plus on entend parler d'un jeu, plus qu'il est teasé, c'est un peu le sentiment, c'est un peu ce qui s'est passé avec Death Stranding. Beaucoup de gens qui ont fait comme, c'est quoi ça?
Ouais, mais personne savait c'était quoi. Genre, c'était un peu différent parce qu'il y avait une aura de mystère autour du jeu, mais là, on sait un peu à quoi s'attendre avec Cyberpunk parce qu'on connaît CD Projekt Red, tu sais.
Ouais, là, on sait quand même c'est quoi le jeu en question. Mais c'est ça, on dirait que quand c'est trop long, le teasing, puis le repousser un jeu,
t'as
c'est tant mieux. T'as le temps de t'étonner, t'as le temps de te faire des attentes aussi.
Moi, j'étais hypé genre à fond pour ce jeu-là, là, un an et demi, mettons. Au dernier E3, tu sais. Pas lui qui vient de passer, l'autre d'avant. J'étais genre, oh my God.
Ouais.
Puis là, j'ai eu le temps comme de faire, bon, ben, c'est un autre jeu.
Écoutez, quand même, on a un peu d'espoir quand même pour Cyberpunk et on va espérer justement que l'espoir va s'étendre sur toute l'année en 2020. Et vous avez remarqué par ce lien boiteux-là qu'on passe à la conclusion dès maintenant. OK, deux secondes, faut que je range mon kit de drum avec lequel je viens de jouer. OK, alors, c'était moi, à la batterie. Je suis le Normand Bratois de Pain-sur-Sarthe. Alors, c'est le moment de la conclusion. Tout d'abord, j'aimerais remercier à la technique Philippe Séguin. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir accompagnés dans cet épisode-là, ainsi que Gabriel Meunier. Nous sommes sur le pinsurstart.com ainsi que sur le twitch.tv/pinsurstart. Comme je vous disais en début d'épisode, c'est une expérience, Pinsurstart. On enregistre devant public les mercredis à 18h30 sur Twitch et c'est disponible deux jours plus tard sur les fils audio de Cube, de Stitcher, de Google, de Apple et compagnie. Si vous êtes sur Apple, notamment pour déguster là, ce petit podcast-là, on vous invite à laisser étoiles et commentaires, vraiment dans un but pour qu'on s'améliore. On vous demande pas ici, mettez 5 étoiles, vous dites que c'est la meilleure affaire depuis que vous avez perdu votre virginité, là. on veut s'améliorer. Alors, si vous, faites des commentaires drôles, on va les lire en ondes et on va rigoler avec vous. Si c'est des constructifs, on va en débattre en ondes et voir comment on peut s'améliorer. On est aussi un site qui est sur les réseaux sociaux. Évidemment, on est sur Instagram, on est sur Discord, on est sur Twitter, on est sur Facebook. Cherchez-nous, on est là, ben, sur Start. On est aussi dans du papier, dans le magazine Cool, dans la chronique Game Balloon, qui est pilotée par mes collègues femmes ici, Cassie Sharp et Christine Lemousse. Les messieurs avec des barbes de 3 jours n'y touchent pas, je vous en assure. Parce que ça serait un peu whack, là, comme « Hey, salut les jeunes filles, ici des gars dans quarantaine qui te parlent de microbrasserie. » Parce que de quoi ça parle d'autre, un gars dans quarantaine?
Ça parle juste d'IPA.
Et voilà.
De pelouse, plate, mais d'engrais.
Et voilà.
Et de culture.
Et aussi, on est dans le journal 24 heures les jeudis, où est-ce qu'on fait des portraits de personnalités qui nous révèlent leur côté geek ou de geeks qui nous révèlent leur personnalité.
C'est même t'as lancé le projet.
Non, non, je l'ai lancé avec une maquette de Christine Lemousse, parce que si j'avais dit ça de main, ce serait comme « Ah! Lol! » J'aurais raccroché au nez.
Tout dans ton trou, hobbit.
Mais c'est ça, avec accompagné de Christine Lemousse, ça a beaucoup mieux passé. Pour nous rejoindre, info@pesesurstart.com. On revient évidemment l'année prochaine. Dès la mi-janvier, fin janvier, vous aurez de nouveaux épisodes hebdomadaires. Merci à Cube de nous faire confiance. On est un peu fous, mais bon, écoute, on les remercie. Et merci surtout aux gens qui nous écoutent en ligne, qui nous regardent sur Twitch. Sans vous, il n'y aurait tout simplement pas d'émission. Vous êtes l'autre personne au bout de cette table qui ressemble à un plectre de guitare. Merci beaucoup à notre équipe. Merci Christine de m'avoir enduré. Merci Cassie. Bon retour. On a hâte de te retrouver lors des prochains épisodes. Tout comme Marc-Antoine et tout comme Raphaël aussi.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode. Là-dessus, je vais dormir. Parce que la fin d'année était rough. Je m'en fous que ce générique joue. Je m'en fous. Je suis tellement fatigué. L'année était longue.